Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'Intégration, un projet piloté par O2 Radio en partenariat avec L'Autre Rive et cofinancé par le Fonds Européen d'Intégration. Tout le détail de cette action est disponible sur notre site odeuradio.net, onglet FEI. Du mois d'avril au mois de juin, nous travaillons sur la culture. Ce mois-ci, nous parlons de la culture européenne. Vous écouterez une émission animée par Jean-Christophe Blancan. Vous entendrez Antoine Godbert, président de la Maison de l'Europe Bordeaux et directeur de l'agence 2E2F, Agence Europe Éducation Formation France. Jean-Claude Lacassagne, secrétaire du MEF Gironde, Mouvement Européen France. Florence Rowe-Clantenet, chargée de la communication et des projets transversaux au pôle Affaires Européennes et Internationales du Conseil Régional d'Aquitaine. Très bonne écoute sur O2 Radio.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois notre question d'actualité soumise aux quatre médias. Les quatre médias, donc, en partenariat avec Hugo Hamès du Courrier de Gironde. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir.
Les quatre médias aussi en partenariat avec Aki.fr. Et on a le plaisir de recevoir Solène. Solène, bonsoir.
Bonsoir.
Les quatre médias aussi en partenariat avec Jacques Brunet pour l'Écho des Collines. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir.
Bien entendu, O2 Radio, pour vous servir, donc aujourd'hui les quatre médias ont fait une spéciale élection européenne. Rappelons la date, évidemment, ça sera le 25 mai 2014, un seul tour pour voter. Et pour nous parler de ces élections européennes, nous avons invité Antoine Godbert, président de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, directeur aussi de l'agence 2E2F. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Nous avons aussi invité Claude Lacassagne, secrétaire du Mouvement Européen France. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Alors nous excusons le président de la section Gironde du Mouvement Européen France qui n'a pas pu se libérer, Jean-Charles Lègue. Donc on lui envoie évidemment nos salutations. Et nous aurons aussi comme invité Florence Rowe-Clantenet, chargée de la communication et des projets transversaux Pôle Affaires Européennes et Internationales au Conseil Régional d'Aquitaine. Nous la retrouverons par téléphone. Et oui, parce qu'actualité oblige, évidemment, vous avez déjà entendu parler du joli mois de l'Europe en Aquitaine et aussi de la fête de l'Europe. On y reviendra bien entendu avec nos invités. Et Florence est en pleine préparation, Antoine aussi ici présent et vous aussi, Claude. Évidemment, on reviendra évidemment sur ces programmes. Alors, pour introduction, donc les élections européennes, on vous le disait, c'est bientôt, c'est le 25 mai 2014, donc le dépôt des candidatures pour ces élections au Parlement européen s'est achevé le vendredi 2 mai à 18h pour la circonscription sud-ouest. Alors on va dire celle qui nous intéresse en particulier. 25 listes ont été déposées auprès du ministère de l'Intérieur, soit 500 candidats pour 10 sièges à pourvoir. Alors rappelons que l'élection des représentants au Parlement européen aura lieu, on l'a dit, en France métropolitaine le dimanche 25 mai 2014 et aussi le 24 mai pour les départements et collectivités d'outre-mer. Donc 751 sièges seront à pourvoir au sein des 28 États membres de l'Union européenne. N'oublions pas que la Croatie est entrée dans l'Union le 1er juillet 2013. La France élira donc 74 représentants au Parlement européen, soit deux de plus que lors des dernières élections européennes en juin 2009, en application du traité de Lisbonne signé, rappelons-le, le 13 décembre 2007. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les 8 circonscriptions électorales proportionnellement à la population avec application de la règle du plus fort reste. La circonscription du Sud-Ouest comprend les 18 départements des régions, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. L'élection aura lieu par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges seront répartis dans chaque circonscription entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants au Parlement européen seront élus pour 5 ans. La campagne officielle sera ouverte à partir du lundi 12 mai à minuit et s'achèvera le 24 mai au soir. Voilà, donc les élections européennes donneront aux électeurs la possibilité d'influer sur le cours de l'Union européenne, hein, en désignant, on l'a dit, 751 députés au Parlement européen qui représenteront leur intérêt au cours des 5 prochaines années. Les résultats des 28 pays seront annoncés au cours de la soirée du dimanche 25 mai. Ces députés représenteront plus de 500 millions de citoyens dans 28 États membres. Les sièges sont attribués par les traités aux différents États membres sur la base de la proportionnalité dégressive, à savoir que ceux dont la population est plus importante possèdent davantage de sièges et que les pays dont la taille est plus modeste, mais ces derniers ont plus de sièges que ne le permettrait la stricte application de la proportionnalité. Enfin, à l'heure où l'Union européenne cherche une issue à la crise économique et où ses responsables politiques sont en train de réfléchir à quelle orientation lui donner à l'avenir, ces élections européennes revêtent une importance plus grande que jamais. En effet, l'une des principales nouveautés introduites par le traité de Lisbonne est que lorsque les États membres désigneront le prochain président de la Commission européenne, qui succédera, on vous le dit, à José Manuel Barroso, ça sera l'automne 2014, ils devront pour la première fois, ces parlementaires européens et la Commission, tenir compte du résultat des élections européennes. La nomination de ce candidat devrait être approuvée par le nouveau Parlement. Le président de la Commission est d'ailleurs, au terme du traité, élu par le Parlement. Cela signifie que les électeurs ont un véritable droit de regard en ce qui concerne la personnalité qui sera placée à la tête du gouvernement de l'Union. D'ailleurs, 5 des 13 partis politiques européens ont déjà désigné un candidat pour succéder au président actuel de la Commission. La nouvelle majorité politique issue des élections élaborera évidemment également la législation européenne au cours des 5 prochaines années dans des domaines aussi variés que du marché unique aux libertés civiles. Le Parlement, rappelons-le, la seule institution de l'Union directement élue, constitue désormais l'un des rouages essentiels du système décisionnel européen et sa voix pèse du même poids que celle des gouvernements nationaux en ce qui concerne la quasi-totalité de la législation de l'Union. Alors voilà, alors en votre compagnie, chers invités, après une présentation rapide du fonctionnement institutionnel, hein, on reviendra sur mais quel rôle joue le Parlement, de quel pouvoir dispose-t-il, quel est le travail du député, d'un député européen et des groupes politiques présents au Parlement. Nous reviendrons aussi sur la 5e édition du Joli Mois de l'Europe en Aquitaine, sur le programme de la Fête de l'Europe organisé par la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine et notamment, bien sûr, sur le débat organisé ce samedi, le samedi 10 mai, avec 8 candidats au Parlement européen. Ça sera à Bordeaux. On vous donnera toutes ces explications durant l'émission. Alors, peut-être pour commencer avec vous, Antoine Godbert, et pour la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine ou encore Claude Lacassagne pour le Mouvement européen France. Voilà, on voudrait revenir un petit peu sur mais les institutions européennes. On va évidemment faire un focus sur le Parlement européen, hein, vu que les élections sont là pour désigner ces parlementaires. Mais voir avec vous, effectivement, les citoyens, des fois, n'ont pas toutes les informations sur les institutions européennes. Alors avant de revenir, effectivement, en particulier sur le Parlement européen, peut-être un mot sur ces institutions et finalement ces différentes commissions, conseils. Alors, peut-être quelqu'un qui veut se lancer, peut-être quelques mots sur la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne ou encore le Conseil européen. Antoine, peut-être, ou Claude Lacassagne, quand vous voulez.
Ben, je vais vous en dire un mot très rapidement, parce qu'en fait, votre préambule était formidable, il a tout expliqué. Je me demande même si c'est la peine de le compléter.
On va compléter quand même. Je vous écoute, Claude.
Donc, bon, l'organisation, elle est composée de 3 grandes parties. Le Parlement, dont on va parler justement aujourd'hui.
Tout à fait.
Le Conseil des chefs d'État, donc on appelle le Conseil, et la Commission, qui est en quelque sorte le gouvernement. Sauf que dans le cas particulier de l'Europe, le gouvernement n'est pas nommé par le Parlement. Mais à partir du traité de Lisbonne, le grand intérêt, c'est que le Parlement prend beaucoup plus de pouvoir, notamment par le fait que plus aucune décision ne peut se prendre avec l'agrément du seul Conseil des chefs d'État. Il faut un agrément à la fois du Conseil des chefs d'État et du Parlement pour qu'une loi, par exemple, soit votée.
Très bien, on va dire que ça, c'est vraiment le changement voilà, qui a suivi la signature du traité de Lisbonne. Hein. Voilà. Mais sinon, en quelques mots, donc, alors, la Commission européenne, on va dire que c'est l'organe exécutif de l'Union européenne, hein, c'est ça,
oui, Claude c'est ça.
Et Antoine, je parle sous votre contrôle. Ils sont responsables de la proposition et de la mise en application des lois européennes. Et évidemment, le Conseil de l'Union européenne, vous l'avez dit, est composé des ministres, des gouvernements. Il partage les compétences budgétaires et législatives avec le Parlement européen. Et enfin, le Conseil européen, qui lui est composé des chefs d'État ou de gouvernants des États membres, et qui est l'organe stratégique qui va dire, on va dire, qui décide des grandes orientations politiques de l'Union européenne.
Alors moi je rajouterais justement que grâce à ces élections, on va avoir un peu un éclaircissement de la situation, parce que la fameuse remarque est souvent de dire qui dirige en tant que l'Europe dans ce champ institutionnel. Il y aura une réponse qui va être apportée grâce à ce changement que vous avez signalé donc, dans votre introduction, avec la possibilité donc, que le vainqueur donc, d'une élection démocratique puisse vraiment incarner la gouvernance. Alors c'est très important parce que ça ne remet pas en cause ce qui a été décidé petit à petit, hein, parce que le poids du Parlement européen s'est petit à petit accru donc, depuis 1958. Et là, avec le traité de Lisbonne, on a maintenant vraiment un partage. Et ce partage va être d'autant plus important d'un point de vue symbolique que le vainqueur de l'élection du Parlement sera le véritable chef. Alors ça ne va pas changer en même temps les choses, c'est là-dessus que je voudrais donc insister. Il y a toujours la présidence du Conseil. En ce moment, on est sur une présidence grecque. On aura une présidence italienne donc à partir du 1er juillet. Et ça va continuer donc comme ça l'était auparavant. Mais le fonctionnement donc des trois institutions va être quand même un peu simplifié par le fait que le vainqueur d'une élection démocratique sera vraiment le vrai leader.
Oui, Hugo Hamens, pour le point de Gironde.
Est-ce que c'est surtout une mesure symbolique?
Je pense que oui, parce que deux choses. La première, c'est qu'on peut espérer qu'aujourd'hui, comme ça, on aura une incarnation très humaine, parce que souvent, la question que se posent les citoyens et les citoyennes européennes, c'est qui, en fait, qui incarne ?
Oui, c'est
alors,
ça.
Ça peut être quand on a un État relativement fort avec un chef d'État qui est le président du Conseil, donc il a tendance à prendre un petit peu l'habit. Comme d'ailleurs le président actuel donc de la Commission, hein, Monsieur Barroso, qui a fait deux mandats, qui donc a une légitimité née d'expérience. Là, on aura une légitimation démocratique. Alors ensuite, ça va dépendre de la personnalité qui va être élue, et ça va dépendre aussi de son programme politique. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait ces débats, tels que ceux qu'organise donc le mouvement européen, tels que ceux que nous allons organiser avec la Maison de l'Europe, pour que les citoyens puissent se déterminer en fonction d'un programme politique. Et on peut espérer que ce soit un vrai leader politique, hein, peu importe la personnalité, hein, que ce soit M. Juncker, que ce soit M. Verhofstadt, que ce soit M. Schulz, hein, que ce soit M. Bové, mais qu'il y ait un vrai leader politique.
Ou l'allemand de Skakeller, voilà. Une double présidence pour les Verts, apparemment.
Et qui puisse donc incarner donc vraiment un choix politique qui est important aujourd'hui, alors qu'il y a des décisions qui sont essentielles pour les 5 ans à venir. Et j'espère que donc là, il y aura une capacité pour les citoyens à mieux comprendre qui est leur leader.
Voilà, mais à travers cette articulation, évidemment, à travers les institutions européennes, on est déjà entré voilà, dans le rôle du Parlement. Alors un mot, Claude, effectivement, ce que disait Antoine, finalement, cette incarnation, c'est plutôt une bonne chose, on va dire, en termes de représentation démocratique du Parlement européen. Et finalement, cette élection maintenant du président de la Commission européenne, ça va plutôt vers une bonne chose pour les citoyens, le rapprochement des citoyens et la représentation finalement européenne.
Alors oui, c'est effectivement une bonne chose. Le seul problème, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui en tête de ces partis, enfin proposées comme futurs leaders, ne sont pas très connues du grand public. Ils sont connus éventuellement chacun davantage dans leur pays ou dans les instances ou dans les personnes qui s'intéressent de plus longue date à la construction européenne. Mais disons que le fait que ce débat va être organisé pour désigner, sous l'influence du Parlement, le prochain patron, fera que par la suite, les gens sauront qu'il y a un patron et que ce patron, voilà, c'est effectivement démocratiquement qu'il a été mis en avant. Alors,
donc incarnation, représentation légitime.
Voilà. Alors sachant que je tire quand même l'attention sur le fait que, comme il est assez peu probable qu'un seul des grands partis puisse avoir plus de 51%, la désignation de ce patron fera forcément l'objet d'un accord entre deux ou trois des principales formations qui auront été élues. Mais ça, c'est un peu la tradition du Parlement qui fonctionne beaucoup sur une notion de consensus. Et ça peut présenter un intérêt, c'est-à-dire que il ne peut pas être pris de décision qui serait prise à la seule initiative d'une tendance politique. Il y a forcément un accord entre
l'Europe,
plusieurs tendances.
Comme ça, c'est le consensus,
voilà,
en principe.
Ça marche beaucoup comme ça et ça doit éviter des clashs. Alors on peut dire aussi que ça évite peut-être des avancées extraordinaires que pourrait prendre quelqu'un en tapant sur la table.
Mais c'est vrai qu'on avance régulièrement mais avec des consensus, on recherche quand même un accord.
C'est une voie vraiment démocratique.
Très bien.
Alors, parlementaire.
On le voit avec cette nouveauté effectivement importante en termes de représentation démocratique et cette élection donc par les parlementaires du président de la Commission maintenant. Outre cette nouveauté, donc, quels sont les principaux pouvoirs du Parlement européen ? Donc, on passe évidemment à des pouvoirs, au pouvoir législatif, au pouvoir budgétaire, mais peut-être un mot là-dessus, évidemment, au pouvoir législatif. On entend tous, évidemment, que c'est les parlementaires qui votent les lois. Un mot peut-être, Antoine ou Claude, là-dessus. Le pouvoir budgétaire, bien sûr, très important, évidemment.
Bon, deux choses par rapport à ça. Je pense que vous l'avez rappelé tout à l'heure dans l'introduction, c'est qu'une grande partie aujourd'hui donc de corpus réglementaire et législatif vient de l'Union européenne et que chaque État doit donc s'adapter dans son propre corpus juridique tout ce qui est décidé. Et donc c'est rappelé en permanence, mais peut-être qu'on ne le dit pas assez, une grande partie de notre fonctionnement quotidien, qu'on soit un citoyen, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une association, ben ça dépend de choses qui ont été décidées et votées ensuite par une majorité donc au Parlement européen. Deuxième élément, sur le plan budgétaire, il y a eu une énorme avancée donc avec le traité donc de Lisbonne, puisque maintenant, et on l'a bien vu quand il a fallu décider pour donc les perspectives financières entre 2014 et 2020, l'application du traité de Lisbonne dès 2013 a fait que donc les demandes du Parlement ont dû être beaucoup plus prises en compte que ça n'était le cas quand il y a eu la première élection en 79 et comme c'était le cas il y a 20 ans. Donc là, on a une vraie avancée sur le plan budgétaire et on sait très bien, par exemple, sur un sujet qui est la capacité donc de l'Union d'être plus présente dans le domaine social, que le Parlement a souvent été beaucoup plus en avant que ne l'était donc la Commission ou que n'a pu l'être le Conseil. Donc là, on a une vraie avancée démocratique et on peut espérer donc sur le plan budgétaire, même si on peut tous regretter que ce qui a été décidé pour 2014-2020 n'ait pas été aussi important que ce que beaucoup de citoyens souhaitaient.
Notamment en termes de relance économique, on a beaucoup attendu, effectivement.
Exactement.
Alors, un signe européen, quoi.
Ce qui veut donc dire que le Parlement a plus de poids, mais comme le disait très bien Claude, on est encore sur un fonctionnement en tant que d'équilibre entre les différentes institutions, et c'est le Conseil qui a eu finalement le dernier mot.
Oui, Solène et Hugo.
Est-ce que justement sur la question budgétaire, le Parlement a plus de poids, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu en avoir encore un peu plus ? C'est-à-dire, finalement, il a quand même joué le jeu. Est-ce qu'il n'aurait pas pu bloquer un peu plus longtemps les accords qu'il y avait avec la Commission ? Finalement, les changements n'ont pas été très, très important entre le texte de la Commission et le texte parlementaire à la fin, la proposition parlementaire. Est-ce que, quelque part, le Parlement, les députés sont pas un peu timides, pas timides, mais le manque de courage parce qu'ils représentent aussi leur pays, l'air de rien.
Moi, je pense pas qu'ils soient timides. Je pense au contraire que avant, ils avaient la possibilité de s'exprimer. Ils avaient l'impression que ça ne donnait pas forcément un énorme résultat sur les changements sur le budget. Là, aujourd'hui, à la fois dans le travail de fond qui est fait dans les commissions, et c'est extraordinairement important. Quand on dit aujourd'hui que
le travail du député, c'est 20 commissions.
On a des experts, qu'on a besoin d'experts parce que le travail en commission est essentiel pour préparer donc l'ensemble donc des textes qui vont être proposés ensuite donc dans le vote en plénière. Mais je pense que il y a un autre aspect des choses, c'est quand on est trois, ben ça prend plus de temps à discuter tous ensemble. Et si on veut continuer d'être un peu efficace, c'est vrai que ben, il faut le plus de discussions possibles, de navettes comme on dit, entre le Parlement, la Commission et le Conseil, mais il ne faut pas non plus que ça devienne en permanence une usine dont il ne ressort rien. Donc je pense que les parlementaires européens ont vraiment bien joué le jeu lors de la préparation donc des perspectives financières pour les 5 ans à venir, mais que, comme vous l'avez dit, voilà, on est sur un monde un petit peu en mouvement qui avance à chaque nouveau traité. Qu'est-ce qu'on peut constater de manière très simple ? C'est que sur le plan budgétaire, sur le plan législatif, le Parlement européen n'a fait qu'accroître ses pouvoirs. On est aujourd'hui sur une situation qui est celle du traité de Lisbonne. Peut-être que s'il y a une évolution institutionnelle après le choix démocratique dans les années à venir, ben, on aura quelque chose qui permettra aux parlementaires de s'exprimer encore plus fortement.
Hugo Hamas pour le Collège de Gironde.
Oui, pour revenir sur l'application des directives européennes, est-ce que finalement on n'a pas un message contradictoire ? Je prends un exemple. Il y a quelques semaines, l'Europe autorisait la culture du maïs transgénique. Et quelques semaines après, quelques jours après peut-être même, la France dit non, on n'aura pas cette culture. Est-ce que finalement, ce n'est pas envoyer des messages contradictoires et dire, ben finalement, regardez, chers citoyens, ce qui est décidé à Bruxelles et à Strasbourg, finalement, n'a pas d'influence sur ce que vous mangez et ce que vous avez dans votre assiette.
Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que les textes qui sont votés doivent entrer ensuite dans le corpus juridique de chaque État. Et ensuite, voilà, c'est une union d'États. On n'est pas dans une Europe fédérale. Oui. Donc si un gouvernement, au nom donc de sa spécificité ou d'éléments qui concourent à sa souveraineté, considère qu'il y a des choses qui ont été décidées qui ne doivent pas s'appliquer, il est totalement libre de le faire. Voilà. On est là au centre de ce qui a été le choix très démocratique que les États, dans certains types de compétences, ont laissé l'Union les représenter. Pensons par exemple aux négociations internationales sur le plan du commerce. Et puis dans d'autres domaines, ne le veulent toujours pas.
Mais est-ce que ça ne brouille pas les pistes vis-à-vis des citoyens ?
Je pense que c'est notre rôle, à la fois au mouvement européen, à la fois aux maisons d'Europe, d'expliquer. On a effectivement une création qui est totalement différente de tout ce que l'on peut connaître dans le monde entier. Donc on construit un objet institutionnel, qui est cette Union européenne, qui est regardé dans le monde entier. Alors, qui avance un petit peu en marchant. Alors il y a des choses probablement qui mériteraient donc d'être améliorées, et je pense que ça va être l'objet du débat politique pour les élections européennes. Et puis en même temps, il y a petit à petit donc des avancées, parce que quand même, hein, ça t'est rappelé tout à l'heure, on est 28. Les élargissements en 2004, on a eu 10, on a eu 2 de plus donc en 2007. Tout ça fait qu'on a beaucoup plus d'États et donc c'est beaucoup plus complexe parce
28,
que les États restent
28
relativement
été,
hein. 28 avec la Croatie, ouais, donc depuis le 1er juillet.
C'est ça.
Et que donc les États restent quand même maîtres et qu'on peut pas, surtout quand on prend par exemple ceux qui sont sortis de mondes fédéraux, je pense par exemple aux États baltes, on ne peut pas leur réimposer des choses parce que culturellement, ils n'ont pas tout à la même manière de concevoir les choses que nous.
Oui, c'est vrai que ça reste un modèle atypique et ce modèle européen qui n'existe
unique
nulle part ailleurs. Jacques Brunet.
Je voudrais compléter en disant que quand il y a un hiatus comme ça, c'est un hiatus qui est dû à notre pays. C'est pas, puisque les décisions au niveau européen, elles sont prises. Il faut qu'il y ait unanimité entre le Parlement et le Conseil, mais il faut, à l'intérieur du Conseil, qu'il y ait unanimité pour la plupart des sujets. Donc ça veut dire que notre pays, le représentant de notre pays, c'est-à-dire notre chef d'État, a dit OK. Et après, on revient ici, quand ça pose un problème, on dit ah ben c'est l'Europe qui nous l'impose.
Oui, sauf qu'entre-temps, le gouvernement français a signé l'accord. Et
ça, justement,
Monsieur
Juppé l'explique très bien dans chacune de ses interventions, en expliquant que quand on est en désaccord avec une décision prise à Bruxelles, c'est à notre propre gouvernement qu'il faut s'en prendre, pas à la Commission et pas au Parlement européen.
Tout à fait. Jacques Brunet.
Oui, je reviens un tout petit peu là sur les élections. Je vois là 25 listes en Aquitaine. C'est quand même un sacré problème d'information d'abord. Et comment expliquez-vous qu'il y en ait 25, hein, et donc une dispersion considérable?
Alors 25, hein, pour la circonscription sud-ouest, ouais, ce qui comprend donc plus largement que l'Aquitaine, hein, on est d'accord. Hein, donc l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc aussi.
Et je crois que la moyenne dans les différentes circonscriptions en France est de 24.
Oui, ouais, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Bon, ce qui fait ça, c'est le fait que n'importe qui peut constituer une liste, parce que ils ne sont pas obligés de la présenter dans toutes les circonscriptions. Donc vous avez une liste qui a un projet basque dans la nôtre, vous avez une liste qui a un projet breton en Bretagne. Bon, sachant que ces gens-là ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne, puisque là, il n'y a pas de prise en charge. Et souvent, ce qui se passe pour ces petites listes, c'est que c'est simplement un moyen de faire parler pendant la campagne de leurs convictions, de leurs intérêts, Et en fait, la plupart du temps, ils ne financent même pas l'impression des bulletins de vote. C'est-à-dire oui. que quand on ira voter dimanche 25, il n'y aura pas les bulletins. Alors rien ne vous empêche d'écrire sur un bulletin blanc le nom du parti pour lequel vous voulez voter. Mais enfin,
il sera comptabilisé si on l'écrit.
Alors là, vous me posez une colle. Je pense que oui. A priori, il n'y a pas de raison.
Alors on poursuit sur ces pouvoirs du Parlement européen, hein. Donc on a vu effectivement ce pouvoir législatif, ce pouvoir budgétaire, il y a aussi tout ce qui concerne le contrôle démocratique et de surveillance, à savoir le contrôle parlementaire, la BCE, le pouvoir nomination, les enquêtes parlementaires, les questions parlementaires, il y a aussi ce pouvoir quand même en matière de politique étrangère, les droits de l'homme. Évidemment, aussi la possibilité des pétitions. Je voulais revenir avec vous sur l'importance des groupes politiques. Et on l'a vu, il y en a quelques-uns qui se profilent. Et puis de toute façon, on parle d'élections européennes, de parlementaires européens. Et donc, ils iront, une fois élus, évidemment, rejoindre un groupe politique. On a l'impression qu'à travers le travail de ces groupes politiques, et Antoine parlait des commissions, effectivement, il y a une vingtaine de commissions très importantes dans lesquelles s'inscrivent tous les parlementaires européens. On a l'impression que c'est vraiment le véritable moteur finalement du Parlement européen, ces groupes politiques. D'ailleurs, qui correspondent pas tout à fait à ce qu'on peut retrouver à l'échelle d'un État membre. Hein. Alors un mot sur ces groupes politiques finalement, qui seraient le véritable moteur du Parlement européen, Antoine ou Claude?
Deux choses. Je pense que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a le travail en commission. Donc là, ça vient donc en dehors, donc même d'une appréciation politique. Et ensuite, il y a effectivement des barrières qui ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on connaît d'un point de vue national. Mais il faut se placer dans la position aussi des autres États qui ont aussi un champ politique et des partis politiques particuliers et qui doivent donc s'adapter à des regroupements qui sont ceux donc des partis qu'on connaît aujourd'hui. Mais que ça soit le PSE, que ça soit donc le PPE, que ça soit donc les libéraux, on retrouve quand même des grandes familles de philosophies politiques qui ont marqué l'histoire européenne. Hein. Alors, c'est pour ça que pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'interrogation par rapport au nombre de listes, je pense quand même que les citoyens, au-delà de ce qu'ils voient donc sur les 25 listes, savent quand même, et j'espère que ce sera le cas pendant la campagne, que les grands partis qui se présentent en France sont ensuite intégrés dans les partis européens, et c'est comme ça que se dégagera soit une majorité, soit, comme le rappelait Claude, ce qui est peut-être le cas, une coalition qui aura la charge démocratique du pouvoir, en fait.
Hugo Hamas.
On voit dans les sondages qu'il y aurait une forte montée de l'extrême droite, que ce soit en France ou même dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que les différents groupes d'extrême droite en Europe pourraient réussir à s'entendre pour créer un groupe?
Je crois qu'ils sont en train d'essayer de le faire. Alors c'est sûr que quand certains mouvements passent plus de temps à Moscou que dans les autres capitales européennes, on peut se poser la question. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une volonté. Et alors on voit bien qu'il y a un certain nombre de rapprochement qu'on pourrait appeler d'idéologique. Et en même temps, sur les partis généralement qui s'opposent, autant le dire, aux avancées de l'Europe, on voit qu'ils le font sur des bases nationales très différentes. Alors à partir du moment où ils mettent en avant d'abord la conception nationale, elle est différente en fonction des États. Donc ça complexifie un petit peu la capacité à pouvoir se regrouper. Et c'est pas simplement en disant non à l'avancée européenne qu'ils arrivent à trouver un corpus suffisant pour pouvoir avoir, je pense, un lien qui leur permettrait de peser politiquement, y compris positivement, dans le travail des commissions. Parce qu'une fois qu'on est un parlementaire, quelle que soit sa couleur politique, on se doit de participer au travail des commissions, puisque c'est là le béaba tout simplement de la démocratie.
Oui, voilà. Alors 20 commissions permanentes, et on va dire que c'est là où se fait tout le travail politique et de négociation, et avant d'arriver aux plénières, évidemment, où sont votés les textes. Alors ces députés, on l'a bien vu, donc une fois élus, ils rejoindront un groupe politique et en son sein, ils prendront place dans les différentes commissions. Et évidemment, ils travailleront pour fabriquer ces nouvelles lois qui seront votées ensuite en séance plénière au Parlement. Donc voilà, on a essayé de faire un petit rappel quand même pour nos auditrices, nos auditeurs des institutions européennes, même si c'est très rapide, et aussi du rôle du Parlement et des députés européens. On va revenir maintenant sur notre actualité, l'actualité en Aquitaine et en Gironde et aussi à Bordeaux à travers donc cette fête de l'Europe, évidemment, dans la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine et la Cheville ouvrière. Et ce débat d'ailleurs que le MEF co-organise ce samedi à Bordeaux. Mais peut-être avant ça, nous allons essayer de prendre au téléphone Florence Rault-Glantenay, voilà, pour la région Aquitaine. On a le plaisir de retrouver Florence, qui, elle, va nous parler de cette initiative de la région Aquitaine, à savoir cette initiative du Joli Mois de l'Europe en Aquitaine. On est déjà à la 5e édition. Et oui, donc, il y a quelques années, c'est l'Aquitaine qui proposait cette manifestation, qui est aujourd'hui reprise dans de nombreuses autres régions en France et qui permet une véritable vitrine de l'Europe dans chaque région. Et bien souvent, de voir que de nombreux projets sont financés et structurent nos vies, et voilà, cofinancés par des fonds européens. Florence, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends. Bonjour à tous.
Bonjour Florence. Alors, on le sait, vous êtes très près par cette actualité, évidemment, du mois de mai, à travers ce joli mois de l'Europe en Aquitaine. Déjà, la 5e édition, Florence. Alors, on le disait, une initiative de la région Aquitaine, et mais qui a fait ses preuves, vu qu'on est déjà à la 5e édition, et qui a fait aussi, on a envie de dire, des petits, vu que d'autres régions ont repris l'événement, Florence.
Oui, je pense qu'il y a eu un succès dans les régions qui l'ont mis en place. Notre idée de départ, c'était vraiment de permettre à tous les Aquitains, en fait, de pouvoir toucher un petit bout d'Europe par différents aspects, différents sujets, et de voir qu'il y avait beaucoup de choses concrètes qui touchaient le quotidien, en fait, des citoyens, des Aquitains. Donc, les manifestations sont effectivement très diverses, hein. Il y en a une cinquantaine, 50 événements pendant tout le mois de mai sur toute la région Aquitaine. Et je crois que le fait d'avoir rencontré un différent public nous a donné envie de continuer et de le développer. Et il y a effectivement une dizaine de régions en France actuellement qui organisent maintenant des jolis mois de l'Europe et qui multiplient les initiatives. Je pense qu'il y a énormément de sujets, vous en avez parlé tout à l'heure, sur l'Europe qui méritent débat, qui méritent qu'on échange, qui méritent qu'on... Et je pense que c'est un petit peu c'est une petite initiative pour essayer que les citoyens se réapproprient la question européenne, qu'ils puissent rentrer dans les débats, qu'ils puissent se confronter aux expositions, aux ateliers, à différents aspects, et pourquoi pas parfois prendre part à, parce que ça peut donner une idée de, par exemple, de mobilité professionnelle en Europe, ou donner une idée à une association de déposer un projet local qui pourrait être cofinancé par l'Europe. Donc on espère que c'est au-delà de la participation aux manifestations, des actions après qui pourront être menées avec l'Europe.
Très bien, Florence. Vous nous parliez d'une cinquantaine de manifestations organisées sur ce mois de mai. Si on devait en citer quelques-unes, j'ai entendu parler d'un lancement d'un webdog, mais aussi d'une expo citoyen européen, citoyen aquitain, sans oublier une participation importante au village européen.
Oui, alors effectivement, la région Aquitaine, elle pilote l'ensemble du Joli Mois de l'Europe, mais elle a en propre deux événements phares. On lance un web documentaire qui s'appelle En Aquitaine avec l'Europe .eu. Vous aurez l'adresse pour vous connecter. On la lance vendredi matin, c'est la journée de l'Europe, le 9 mai. C'est symbolique et il sera visible, ce web documentaire, évidemment sur le net. On pourra aussi participer aux animations dans le hall de l'hôtel de région. Il y a une exposition citoyen européen, citoyen aquitain du 9 au 16 mai. Et puis également sur le village européen qui se déroule, donc vous l'avez dit, le 9 et le 10 mai sur les quais à l'initiative de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Je pense que le village européen, c'est un peu sur l'agglomération de Bordeaux, c'est un peu le point d'orgue en fait, hein. C'est vraiment le lieu où collectivement on va tous se retrouver pour échanger avec le public sur la soirée de vendredi et la journée de samedi. Et puis évidemment, il y a d'autres de manifestations. Si on reste sur le département de la Gironde et même sur l'agglomération de Bordeaux, il y a aussi des ateliers. Par exemple, le 21 mai, il y a un atelier de recherche d'emploi en Europe que fait Eures Pôle Emploi. Il y a une grande opération au Rocher de Palmer sur la mobilité européenne le 27 mai, qui est réalisé par la Fédération régionale des maisons familiales rurales. Vous avez des cafés polyglottes qu'organise par exemple la Cube, il y en a un le 15 mai. Voilà, on a toutes sortes de matchs d'improvisation aussi que la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine a initié au Garage Moderne, ça sera le 16 mai. Alors j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus évidemment.
On peut retrouver tout le programme, de toute façon, Florence Rault-Glantenay, sur jolimoiseuropetoutattaché.aquitaine.eu, c'est ça ?
C'est ça. vous pouvez voir tous les événements.
Bon, très bien. Sinon, Florence, vous, je ne l'ai peut-être pas dit en vous présentant tout de suite, vous êtes chargée de la communication des projets transversaux pour l'affaire européenne et internationale au Conseil régional Aquitaine. Florence, souvent, on dit, quand on discute avec nos concitoyens, voilà, beaucoup nous disent ben, l'Europe est loin, on est très éloigné de l'Europe. Bien souvent, ils ne s'aperçoivent pas que finalement, leur vie au quotidien est jalonnée par des cofinancements européen. Quel message on aura à faire passer, notamment de la région Aquitaine, qui, rappelons-le, aujourd'hui va gérer complètement les fonds européens. Et ça aussi, c'est une nouveauté depuis le 1er janvier.
Oui, c'est vrai qu'on devient, pour la période 2014-2020, donc sur 7 ans, on devient autorité de gestion, donc des fonds européens qui vont arriver sur les projets locaux. C'était l'État auparavant qui gérait ces fonds-là. Le message important, effectivement, c'est de dire finalement aux citoyens que l'Europe est souvent vue dans son aspect normatif, dans son aspect global, et qu'on ne sait pas qu'elle descend aussi jusque dans les territoires pour essayer à la fois d'aller soutenir des territoires un peu en difficulté, mais aussi de participer aux dynamiques locales, aux territoires qui ont des projets innovants et qui peuvent développer leur potentiel, également sur la formation, évidemment, tout le potentiel, les ressources humaines, et puis les projets de développement durable, d'environnement, de performance énergétique. Il y a par exemple les logements sociaux reçoivent des aides pour améliorer la performance énergétique, donc c'est directement la facture énergétique des habitants qui est améliorée. Donc voilà, il y a des initiatives très concrètes.
Donc voilà, l'Europe, c'est pas uniquement la politique agricole, Florence.
Il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, la partie agricole, développement rural est très importante. Elle est fondamentale. Et puis, bon, pour l'Aquitaine, elle est assez importante. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autres types d'initiatives, jusqu'à des initiatives qui concernent l'inclusion sociale, la lutte contre les discriminations. Donc on a des associations, par exemple, qui travaillent sur l'illettrisme ou l'analphabétisme, qui peuvent être cofinancées dans le cadre européen si elles portent un projet innovant dans ce domaine. Donc c'est très large en termes de thématiques. C'est pour 2014-2020, c'est plus d'un milliard d'euros de cofinancement européen qui vont arriver sur les projets locaux. Donc c'est pas une somme négligeable, loin de là. Et effectivement, ça complète l'idée qu'on se fait de l'Europe. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très étonnés quand on les rencontre, qu'il y ait autant d'appui aux projets locaux, aux dynamiques locales, à toutes les initiatives intéressantes que peuvent prendre les collectivités locales, mais aussi les associations, les entreprises, pour développer leur potentiel.
Voilà, et finalement, ce joli mois de l'Europe en Aquitaine permettra évidemment de retrouver toutes ces informations à travers l'ensemble de ces manifestations, événements, ateliers, expositions, débats. En tout cas, Florence Rogland-Tenay, on vous remercie pour l'ensemble de ces informations. Voilà, on fera appel de nouveau à vous dès que possible. En tout cas, on vous dit à très bientôt, Florence, et on salue l'ensemble de l'équipe de vos collaborateurs et collaboratrices.
Oui, et bon mois de l'Europe à tous.
Merci. Oui, Antoine, Claude Lacassagne, Antoine Godbert, on le disait souvent, bon, dans la tête de nos concitoyens français, on parle Europe, on entend parler de la politique agricole commune, voilà, mais l'Europe, ce n'est pas que cela, et c'est aussi de la politique sociale. Florence, on le disait à l'instant, c'est des projets structurants qui impactent notre territoire. C'est notre quotidien, l'Europe, encore une fois, il faut le rappeler peut-être.
Mais c'est plus que notre quotidien, c'est aujourd'hui et c'est demain, et c'est pour ça que c'est très important de dépasser le champ institutionnel, parce que effectivement nos citoyens ont parfois l'impression qu'on a des débats très techniques, alors que l'Europe, ben, c'est un emploi, deux emplois, c'est pour des petites PME, pour des associations, ça peut être dans des subventions complémentaires, pour des collectivités, ce sont des nouveaux bâtiments, ça peut être des nouvelles initiatives, pour des États, c'est la possibilité donc de pouvoir avoir des échanges encore plus importants. À toutes les échelles, l'Europe joue un rôle. Et alors, au niveau international, on le sait, parce que c'est un objet un peu délicat, probablement, mais qui est tellement original qu'il a son rôle à jouer. Mais sur le plan même donc, du micro-territoire, c'est essentiel pour créer des dynamiques.
On le voit sur le territoire de la rive droite, Antoine, par exemple.
Totalement.
Les financements européens qui sont arrivés dans le cadre de rénovation urbaine.
Et là où je suis tout à fait d'accord avec Laurent, c'est que malheureusement, parfois, les citoyens l'ignorent parce qu'on leur parle davantage du débat institutionnel que ce qui fait l'Europe de tous les jours. Et moi, j'ai la chance de diriger donc
alors une justement, une petite présentation de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Oui, donc une Maison de l'Europe dont le rôle est donc de donner l'information sur tout les aspects donc européens et de renvoyer aux différentes structures qui peuvent donc plus préciser donc l'action donc notamment en termes de fonds, hein, vous le rappelez tout à l'heure, et donc pendant cette fête de l'Europe
du 9 au 17 mai,
on espère que au-delà même du village européen, hein, quel point d'orgue pour reprendre l'expression de Florence,
alors ça sera sur le parvis la maison éco-citoyenne
et où on espère vraiment des milliers de personnes donc pendant ce beau week-end, hein, vendredi pour la journée de l'Europe mais également samedi, donc pour le week-end, ça sera l'occasion pendant ces 10 jours de pouvoir discuter sur tous les aspects européens, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine sportif et aussi, bien entendu, dans le domaine éducatif. Et comme on est à côté de la maison éco-citoyenne, également donc dans le domaine environnemental. Donc avec l'Europe, nous sommes dans l'Europe et j'espère bien qu'on aura l'Europe pour donc dans les années qui viennent. Et je crois que c'est très très important de dire aux citoyens qu'une grande partie de ce qu'ils vivent tous les jours a été construit grâce à cette Europe. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui, peut-être à cause de la complexité du débat institutionnel, peut-être aussi parce qu'on regarde ça de manière un petit peu trop politique. Et nous, dans les maisons de l'Europe, on est habitués à parler concret. Donc comment on peut faire pour avoir un emploi de plus? Comment on peut faire pour avoir une subvention pour tel ou tel projet? Comment on peut faire pour être en échange culturel ou tout simplement sportif ou tout simplement parfois passionné ou romantique? Comment je peux aller?
Oui, on parlait de mobilité, il y a Erasmus,
un service volontaire aussi, comment je peux le faire? Et c'est vrai que moi qui ai la chance de diriger donc une institution qui est donc à Bordeaux, qui s'appelle donc l'agence Erasmus+, je me rends compte que l'Europe, pour tous ceux qui font des mobilités, c'est pas de la politique, c'est de la réalité, c'est le bonheur de pouvoir étudier avec les autres, c'est le bonheur de découvrir d'autres pays, c'est le bonheur donc de pouvoir acquérir des compétences tout en le faisant dans la convivialité. Et c'est ça la fête de l'Europe.
Alors, déroulons le programme, Antoine. Alors, cette fête, on l'a dit, on commence pour la journée vendredi 9,
ouais,
samedi, grande journée aussi.
Ça démarre vendredi à 11h à la Maison de l'Europe avec nos amis d'EuropaVox sur un débat sur les institutions. Ça sera lancé officiellement à 18h30, donc sur le village, donc avec les autorités. Il y aura le grand débat, donc nous parlera
le grand
Claude,
débat samedi,
donc,
on va en parler samedi, tout de suite, Claude.
Mais c'est aussi toute une série donc, d'événements.
On fête l'Europe à la Cano aussi.
On la fête à la Cano, on va la fêter à Pau. La Maison de l'Europe, c'est la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, donc on va sortir un petit peu de Bordeaux, et en même temps, on sera très heureux aussi d'être très à Bordeaux, notamment pour fêter le jumelage avec Munich. Mais il y aura des jeux, hein, je pense en particulier à la journée du mercredi avec les enfants, comme chaque année.
L'Europe de l'emploi et de la culture, mercredi 13.
Hein. Exactement.
Mardi 13, pardon.
Il va y avoir encore aussi un grand moment avec le maire de Lampedusa, donc le vendredi donc de la deuxième semaine. Je crois que c'est une question que les médias mettent en avant, mais qui est une question qui interroge tous les citoyens,
évidemment.
Cette question d'immigration et cette question de notre possibilité d'accueillir de manière la plus en adéquation avec les valeurs donc, de l'Europe, donc ceux qui veulent donc s'y installer. Donc c'est à la fois grave, puisque nous sommes dans le contexte d'une élection européenne, et c'est à la fois très festif, parce que l'Europe, c'est aussi la manière de vivre, j'espère, le plus en relation positive avec les autres sur les territoires et particulièrement pour nous donc à Bordeaux et dans l'Aquitaine. Je voudrais aussi dire qu'il y aura plusieurs concerts, en particulier donc le concert donc avec un groupe luxembourgeois et un groupe portugais, hein, Natas Loves You et Paos donc à Lightboat donc le premier jour, hein, le jour de la fête de l'Europe, le vendredi 9.
Hein.
Et parce que l'Europe ce n'est pas la fermeture à l'extérieur, nous fêterons aussi après le débat donc du samedi avec un guitariste mexicain, parce que la relation de l'Europe avec le monde est aussi une des dimensions la plus importante, peut-être, des 5 ans à venir, pour qu'on continue à rester un modèle.
Très bien. Jacques Brunet.
Oui, je pense que avec une fête comme ça, la fête de l'Europe, c'est la partie est gagnée avec un public jeune. Hein. Je pense que avec Erasmus, enfin, on a des témoignages formidables. Hein. Mais le problème de l'image de l'Europe, image qui reste négative, c'est plutôt il y a un problème de génération, il me semble. Hein. Les plus âgés marchent beaucoup moins bien.
Je dirais pas ça.
Alors Claude, on vous écoute. Je pense que
les très âgés ont très bien compris l'intérêt. Les jeunes, il n'y a pas trop de soucis non plus.
Hein. C'est les intermédiaires. Les
et le grand intérêt de ce que fait, de ce qu'organise la MEBA chaque année avec ce village de l'Europe, c'est que alors que d'habitude quand nous organisons des conférences, le public est souvent un public déjà initié, c'est-à-dire ceux que la chose intéresse. Là, l'intérêt, c'est qu'on récupère des gens qui sont là parce qu'ils passent par là, parce qu'il fait beau, quelquefois il pleut malheureusement.
Non, mais là, il va faire beau, je crois.
Mais je veux dire, c'est vraiment le public de base. Et donc, on a chaque année la bonne surprise d'avoir des gens qui, quelquefois, viennent contester dans nos stands, mais au moins viennent en entendre parler, alors que d'habitude, ils n'en entendent pas suffisamment parler. Et là, il y a une très grande responsabilité des médias qui n'osent pas en parler habituellement. Il y avait une grande responsabilité des politiques nationaux qui ne mettaient pas tellement en avant-garde le cofinancement qu'ils avaient obtenu de l'Union européenne sur des opérations dont ils se présentaient comme les seuls initiateurs. Mmh. Donc là, on peut parler au public. C'est le grand intérêt de ce village de l'Europe.
Bon, très bien, Claude. On va vous redonner la parole ici quelques secondes pour revenir en détail sur ce débat donc, qui aura lieu le 10 mai à 18h au cœur du village européen sur le parvis de la Maison éco-citoyenne. Mais juste un bref récapitulatif donc, de cette fête de l'Europe, on vous l'a dit, du 9 au 17 mai, donc le vendredi 9, donc Richelieu, parvis, Maison éco-citoyenne. Voilà, c'est l'inauguration de cette grande fête. Le dimanche 11, c'est Lacanau qui fête l'Europe. Le lundi 12, c'est Bordeaux qui fête Munich. Le mardi 13, c'est l'Europe de l'emploi et de la culture. Le mercredi 14, l'Europe en jeu et en image. Le jeudi 15, l'Europe des échanges à Pau cette fois-ci. Voilà, vendredi 16, l'Europe en scène, vous le disiez, avec le maire de Lampedusa. Et enfin, le final se fera ici à ce nom, au Rocher de Palmer, Antoine Godbert, le samedi 17, avec l'Europe de la diversité et un grand spectacle sur l'histoire de 100 ans d'immigration italienne. Voilà, donc on le voit, un programme très riche et qui va pouvoir aussi permettre créer les conditions donc d'un débat, un débat donc qui va permettre donc à la population présente samedi 10 mai à 18h au cœur du village européen sur le parvis de la Maison éco-citoyenne donc de pouvoir rencontrer des candidats et de débattre directement avec eux sur Claude Lacassane, peut-être un mot de présentation du mouvement européen France Action Gironde et après on va revenir sur ce débat en parlant de son organisation et la manière dont il va se dérouler.
Alors le mouvement européen, d'abord, d'une manière plus générale, c'est un mouvement international. Il y a des sections dans la plupart des pays, et même au-delà des pays qui composent simplement l'Union européenne. Il y a dans des pays hors Union européenne aussi des sections du mouvement européen international. Donc en France, ça s'appelle le mouvement européen France. Et ce qui est une particularité de la France qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays, il s'est passé avec les années des créations de sections locales
dans plusieurs départements,
plusieurs des endroits. Donc il y a une quarantaine de sections locales. D'accord. Et donc nous sommes ici la section locale Gironde. Donc notre section avait envisagé de faire un débat entre les citoyens et les candidats.
Alors c'est vrai qu'il y en a 25 d'après les dernières nouvelles de la préfecture. Donc
voilà. Alors ça a été aussi un débat entre
nous. C'est pas simple, on imagine l'organisation.
En se demandant s'il fallait inviter tout le monde, pas tout le monde. Mais en fait, quand on a commencé à préparer ce travail, on a contacté ceux qui avaient déjà fait part de leur intention d'avoir une liste. Donc les grands partis en particulier. Et sur la proposition de la Maison de l'Europe, il s'est révélé plus intéressant, bien que ce soit un week-end et que beaucoup de gens craignaient que le week-end à Bordeaux, quand il fait beau, les gens sont plutôt à Arcachon qu'à Bordeaux.
Oui, ça commence à partir quand même.
Pour viser du grand public, c'était quand même mieux de le faire effectivement sur l'opération du village de l'Europe.
D'accord.
Donc en fait, l'initiative a donc rassemblé à la fois le mouvement européen Gironde, la Maison de l'Europe, le club de la presse et acquis.fr.
Acquis.fr, ouais. Donc on salue d'ailleurs Joël Aubert s'il nous écoute. Donc, fera partie, il sera chargé d'animation, voilà, avec Pierre Sauvé aussi. On salue Joël Aubert.
Et ce qu'on a vu d'amusant aussi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, alors qu'au début de la préparation de cette conférence, les candidats, les listes nous proposaient des candidats qui étaient des locaux, ce qui nous intéressait, mais rarement des têtes de liste.
Plus des seconds couteaux.
Je ne le dis pas comme ça. Non, mais ce qui pouvait être intéressant.
Mais là, vous avez
aussi
vu arriver les têtes d'affiche finalement.
Ce qui pouvait être intéressant, oui, d'ailleurs, oui. Moi personnellement, je trouvais intéressant que ce soit plutôt des gens du coin qui viennent se montrer, puisqu'on cherchait à rapprocher le citoyen du candidat député. Et puis, vu l'intérêt de la chose, eh ben, finalement, on a vu des têtes de liste très importantes.
Donc, on peut citer alors ceux qui ont confirmé, oui. Claude Lacassagne. Donc, pour l'UMP, on aura Madame Alliot-Marie.
Oui.
Pour Alternative. On aura Monsieur Rochefort.
Oui. Pour Nouvelle... Alternative, c'est le nom de UDI Modem. Hein.
D'accord. Pour Nouvelle Donne, nous aurons Monsieur Boussion.
Alors, là, on est dans des plus petites listes. D'accord. Les personnes sont
Rassemblement citoyen, Monsieur Deyres. Monsieur Arribé pour le Parti socialiste, Parti radical de gauche. Monsieur Andema pour Parti fédéraliste européen sud-ouest, Monsieur Marty pour Nous citoyens et Monsieur Sobus pour Europe écologie les Verts. Voilà, donc ça fera en tout 8 listes importantes, on va dire, pour ces élections.
Alors sachant que notre idée, ce n'est pas de faire discourir à chacun leur tour.
Voilà, donc c'est pas un meeting,
c'est pas du tout une présentation.
Ou une tribune pour chacun.
Voilà, on va collecter auprès des personnes qui se sont invitées à assister à cette réunion les questions qu'ils ont à poser. Et on demandera à ceux qui souhaitent répondre à chacune des questions de le faire. Mais d'accord. C'est un débat entre la salle et les intervenants.
Là, pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, jeudi soir, en première diffusion de cette émission, il y a encore temps pour eux de, justement, s'ils souhaitent participer à ce débat. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, justement, s'inscrire, envoyer des questions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler, se rendre le jour J sur
place?
Se
rendre
samedi.
Le jour J sur place, ça démarre à 18h.
Donc, il faut arriver à l'avance pour préparer des questions.
On arrive à l'avance avec des questions. Il y aura des urnes pour les collecter et des personnes pour faire les porte-parole.
D'accord. Est-ce que c'est une première pour vous, l'organisation de ce type de débat, la veille d'une élection européenne?
Alors, la veille d'une élection, oui. Mais par contre, on a une très grande fierté, c'est d'avoir été co-organisateur d'une très grande manifestation qui a eu lieu le 5 octobre à Bordeaux. Avec l'ensemble, le quasi-ensemble des eurodéputés de l'eurocirconscription. Donc on avait créé un comité de liaison entre toutes les sections mouvement européen et toutes les maisons de l'Europe du Grand Sud-Ouest, donc des trois régions économiques, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et cette opération a eu un très grand succès. On a rempli l'Athénée avec 400 personnes. Et le grand regret, et c'est peut-être pour ça qu'on a revu la modulation de notre prochaine conférence, le grand regret était que la salle avait estimé une avoir eu assez de temps pour poser des questions dans la mesure où les 8 intervenants avaient chacun...
c'est souvent le cas. C'est les premières questions qui mettent du temps. Puis à la fin, quand on dit c'est fini, tout le monde veut poser ses questions. Antoine, vous voyez ça plutôt d'un bon oeil, finalement, ce débat ouvert, évidemment, à l'échange avec le public.
Hein. Très bien, parce qu'en plus, il arrive à la fin donc, du village. Et donc, on espère que ceux qui seront passés donc, sur le village, à partir de 11h à la MEBA, auront posé la question à tous ceux qui se sont associés à la vie sur le village. Et je voulais remercier toutes les associations qui seront présentes, l'ensemble des collectivités aussi qui ont accepté d'être rassemblées sur le village. Et comme on le disait tout à l'heure, ça sera l'occasion de pouvoir poser les questions directement à ceux qui permettent que l'on puisse vivre européen. Et donc je pense que ça permettra aussi d'alimenter le débat du soir. Et en ce sens, je ne peux qu'encourager les Bordelais, les Girondins et l'ensemble des Aquitains de venir profiter du beau temps sur les quais, mais aussi d'interroger ceux qui, aujourd'hui, peuvent leur donner des informations. C'est le rôle des Maisons de l'Europe de rassembler. On essaie de le faire le mieux possible. On a la chance que ça se fasse bien parce que Bordeaux et l'Aquitaine sont des grandes collectivités européennes. Il y a aussi beaucoup d'associations. Il y a aussi des institutions comme celle que je dirige. Et tout le monde sera présent sur le village. Donc il faut ne pas hésiter. On dit parfois que l'Europe est trop loin. Là, elle va être très près. Donc il faut aller voir l'Europe qui est très près.
Engagez-vous, devenez européen finalement. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens se plaindre. Mais on peut faire changer les choses aussi. Il suffit de s'engager en Europe. Quoi, en fait. On peut, par son vote, par ses actions, on peut devenir vraiment effectivement un citoyen européen.
De fait, tout le monde peut le devenir, puisque l'Europe permet donc de faire aboutir des projets qui concernent la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est important qu'on le rappelle sur le village, y compris avec de la musique, y compris donc avec du théâtre, y compris aussi avec des dégustations culinaires, puisque ça fait aussi partie des plaisirs, et on est en Aquitaine. Il ne faut donc pas s'en priver pendant le village européen.
Bon, de toute façon, on retrouvera aussi, Antoine Godbert, tout le programme est détaillé de cette fête de l'Europe du 9 au 17 mai 2014 sur le site, évidemment, de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Hein.
Auquel je vous renvoie, bien entendu, et alors, je souhaite que vous soyez très, très nombreux.
Bon, j'avais sous les yeux le livret de citoyens européens. Alors justement, on en parlait de cette citoyenneté européenne, Claude Lacassagne, pour le mouvement européen France. Alors, est-ce que vous avez l'impression, avec votre expérience et la maturité que vous avez, finalement, d'avoir vu une évolution dans la constitution de cette citoyenneté européenne aujourd'hui ?
Honnêtement, c'est vraiment très difficile et c'est quelquefois décourageant. Mais donc, on est quand même quelques-uns à essayer de se battre. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'était peut-être avant notre débat, je pense que le fait que la campagne soit courte parce que les mois précédents ont été monopolisés par d'autres élections, c'est peut-être pas plus mal parce que ça va concentrer l'information sur cette élection. Et il y a aujourd'hui une double page de Sud-Ouest qui est formidable. Donc je rends hommage à Sud-Ouest pour avoir
fait cette
excellente synthèse.
Voilà. Alors c'est vrai qu'on le disait avant cette émission, effectivement le fait que cette période de campagne soit ramassée sur à peine 3 semaines mais va permettre une information importante, et ce qui n'est peut-être pas le cas tout le reste de l'année, Antoine.
Oui, on peut effectivement parfois, et je suis tout à fait d'accord avec Claude, regretter qu'on n'ait pas un suivi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe c'est tous les jours, c'est du quotidien. Alors là, on va profiter donc d'un effet de densification de l'information pendant 3 semaines. Vous citiez donc Grand Quotidien Régional, mais je crois que c'est vrai dans toutes les régions. C'est vrai aussi au niveau des médias nationaux. Et on voit même que le débat autour du fait qu'une grande station de télévision nationale ne retransmette pas donc le débat crée lui-même du buzz. Donc ça veut dire qu'il y a une grande question sur les médias, et je pense que ça ne va faire que renforcer un petit peu l'intérêt, j'espère, sur l'attente des citoyens par rapport à la possibilité qu'ont les candidats aux européennes de pouvoir discuter entre eux et proposer des solutions politiques aux questions qui se posent dans le domaine économique, social, culturel et autres. Donc non, j'espère que ça sera là peut-être une ruse de la raison. On va en parler peu, mais on va en parler beaucoup. J'espère qu'on va en parler le mieux possible, comme on l'a fait ce soir.
Bon, très bien. Peut-être on va faire un dernier tour de table. Il nous reste quelques minutes. Hugo, Solène, Jacques, peut-être dernière question à poser à nos invités. Solène pour acquis.fr.
Oui, ça rejoint un peu ce qu'on a dit ce soir, mais on parlait tout à l'heure des extrêmes, de la réaction des gens qui peuvent aller voter un peu...
Contre, finalement.
Oui, voilà, contre. Il y a ceux aussi qui vont peut-être pas aller voter du tout. Et donc, du coup...
On parle de record, hein, en termes d'abstention, évidemment.
Que ce soit parce qu'on considère que l'Europe est trop lointaine, à mauvais... ce qui est faux, ce que vous me dites, ou par réaction à la politique nationale. Donc, j'aurais bien aimé savoir un peu vous, en tant qu'europhile convaincu, forcément, vu vos responsabilités, comment est-ce que rapidement vous pourriez convaincre quelqu'un à dire l'argument choc qui pourrait dire « allez-y, il faut voter ».
Allez, les arguments choc pour finir cette émission.
Alors,
Antoine, allez-y.
Non, le premier argument, c'est le fait que le droit de vote, c'est sacré. Je veux dire, c'est une stupidité de pas se servir de cette possibilité. Donc, votez pour qui vous voulez,
mais allez voter.
Mais allez voter.
Antoine.
Deuxième chose, c'est une élection politique. Donc on dit simplement toujours que l'Europe c'est technocratique.
Ben voilà.
Là on a une élection politique. Donc,
qui aura une incidence sur l'élection du président de la Commission.
Exactement,
européenne.
Et quand les citoyens veulent une orientation politique, là ils peuvent avoir un vote qui sera politique. Alors on se rend compte que les citoyens vont beaucoup voter pour des élections très politiques, hein, comme l'élection du président de la République. Là ils ont une élection politique, pas techno. Donc il faut y aller, sinon c'est la démocratie elle-même qui va en pâtir.
Hugo Hamès pour le Courrier de Gironde, une dernière question peut-être ?
Non, je reste quand même assez circonspect et assez pessimiste sur le fait que, malgré tout ce que vous nous dites, sur le fait que les gens se déplacent...
Pour aller voter.
Pour aller voter.
Le dimanche 25 mai, on rappelle.
Oui. D'après tout ce qu'on a dit, la multiplication des listes un peu inconnues, le rejet de certaines politiques nationales, et finalement le fait d'être perdu, d'être un peu d'être perdu au milieu de cette accumulation, et de peut-être oui, se sentir un peu exclu de tout ça, malgré le fait que ce que vous nous dites, c'est une élection politique où il y aura même un président qui sera élu par les députés. C'est pas une question, c'est plutôt un sentiment, quoi. Enfin, un peu pessimiste.
Je pense que l'Europe s'est construite quand même sur la démocratie et sur la démocratie représentative. Là, on va élire des représentants qui pourront décider. Je pense que c'est le moment ou jamais de pouvoir le faire.
Mais
c'est vrai qu'ensuite, il y a 740 députés pour 500 millions. C'est vrai que ça représente quelque chose de très grand et on peut se sentir un peu perdu. C'est pour ça qu'il faut venir sur le village européen pour se rendre compte qu'au-delà de l'espace gigantesque que représente l'Union, bah, tous les jours, donc à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'une ville, eh ben, on a de la politique européenne
voilà, on est en contact
qui est du concret. Donc je pense qu'il faut aussi jouer là-dessus et j'espère que les candidats aux européennes passeront autant de temps à expliquer le concret qu'à expliquer l'institutionnel.
Encore faut-il que les candidats des Français soient suffisamment assidus, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on regarde les chiffres de présence au Parlement, on se rend compte qu'entre... Monsieur Yannick Jadot et Monsieur Philippe Devilliers, la différence est quand même assez
importante,
incroyable.
Bah, je pense que les médias, à juste titre, ont stigmatisé ce fait pour les parlementaires, donc
pour
dénoncer
finalement
sessions passées.
Ces absences répétées.
Je crois que les hommes et les femmes qui sont sur ces listes, j'ose espérer que ce sont des hommes et des femmes de responsabilité. Ils savent ce qu'était le bilan donc des précédents. Je pense qu'ils auront à cœur de ne pas vouloir être critiquables par un manque d'assiduité, notamment dans les commissions. Mais juste une remarque par rapport à ça. Après tout, qu'on regarde aussi ce qui se passe dans nos parlements nationaux que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où quelques parlementaires, à juste titre, ont été stigmatisés par les médias parce qu'ils passent plus de temps peut-être
à
se montrer le mercredi plutôt que de travailler dans les commissions. Donc là, je pense que l'Europe n'est pas différente de ce qui existe au point de vue national, mais que justement, le fait de pouvoir travailler avec d'autres pays... où là, la responsabilité des parlementaires est beaucoup plus regardée avec attention, pourra jouer un effet très bénéfique.
Claude Lacassagne, un dernier mot peut-être ?
Moi, je voudrais ajouter que pour avoir fait venir au devant des citoyens plusieurs députés européens, beaucoup sont des sacrés bosseurs. Hein. C'est un sacré boulot d'être député européen. Comme l'a souligné Antoine, ils bossent en commission. Ils ont le sens de la responsabilité. Alors, c'est pas parce qu'il y a quelques... Je ne veux pas utiliser de gros mots, mais enfin, quelques personnes qui ne sont pas à la hauteur de la mission qui leur a été confiée par des électeurs.
Il faut jeter l'opprobre sur l'ensemble. Hein,
évidemment, les journaux parlent de cela. Hein, on parle des crimes, on ne parle pas de...
D'ailleurs, quand on regarde les noms...
Mais quand on voit justement...
Ce sont les moins médiatiques qui sont le plus présents et qui produisent le plus de rapports.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, le fait que les journaux aient souligné les insuffisances de certains permet au public de savoir quels sont ceux qui bossent.
Voilà,
et je leur recommande d'élire davantage sur le critère de ceux dont ils ont compris qu'ils avaient bossé que sur leur propre opinion politique nationale.
Oui, ou sur des calculs plus personnels, tout à fait. Une dernière question, Jacques, allez, rapidement.
Je pense que dans l'euroscepticisme et dans ces pourcentages qui sont quand même un peu inquiétants, il y a un petit peu le sentiment de la perplexité. Est-ce que ces parlementaires ont vraiment le pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas des... Enfin, il me semble que, ils ont le sentiment que il y a le marché qui est au-dessus de.
Oui, alors Claude Lacassagne et puis Antoine pour conclure.
Excusez-moi,
allez,
je voudrais souligner le fait qu'on n'a pas évoqué ici le fait que l'Union européenne, c'est aussi faire un outil d'un poids comparable à ceux des autres grands continents mondiaux. Donc ça, sur le plan aussi, autant économique que social, ça pèse. Et je pense que les bruits de bottes qu'il y a à la frontière de l'Europe en ce moment, ça devrait encourager beaucoup de monde à se dire que la construction européenne est une bonne chose.
Bon, très bien. Antoine, conclusion.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que là, plus que jamais, parfois, c'est regarder par les générations dont vous parliez tout à l'heure. Autant les jeunes le vivent intensément, autant les plus anciens savent que l'Union européenne et l'Europe communautaire, c'est la construction pour la paix. Et ça peut paraître un peu bizarre pour les générations, la mienne, entre deux âges, qui n'ont connu que la paix. Et comme le dit bien Claude, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux frontières ukrainiennes, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est dépassé. La guerre ou la paix peuvent devenir un quotidien. et nos amis des Balkans occidentaux l'ont vécu dans les années 90, il n'y a pas si longtemps. Donc pour convaincre les générations finalement entre les deux, il faut à la fois donner du concret, parce que je pense qu'on est sur des générations plus pragmatiques, et il ne faut pas hésiter à redire que la guerre, c'est pas quelque chose qui est si lointain. Peut-être que dans le temps, ça l'a été, mais je rappelle qu'en 1914, certains n'avaient pas connu en France et en Allemagne depuis 1870, pendant 44 ans, et donc ça avait été un petit peu oublié. Quand ils l'ont reconnu aujourd'hui, que l'on fête le centenaire, ils l'ont vu avec toutes les déviances et toutes les barbaries que cela a pu entraîner. Et je pense que c'est essentiel de rappeler ça, que la construction de l'Union européenne a permis pendant 60 ans d'éviter cela. Ce n'est pas du détail, et c'est très important que Claude l'ait rappelé tout à l'heure.
Merci, merci Antoine Godbert et Claude Lacassin. Voilà, on finira là-dessus. On vous remercie encore une fois. On n'oublie pas Florence Rau-Glantenay pour le Conseil régional d'Aquitaine, Antoine Godbert pour la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, et Claude Lacassin pour le mouvement européen France. Voilà, on vous le rappelle, l'élection pour élire vos parlementaires européens, mais c'est le dimanche 25 mai, un seul jour, un seul tour, donc ne loupez pas la date. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur les ondes de radio. On remercie évidemment Jérôme à la régie technique. À très bientôt, au revoir.